Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. L'antenne vous appartient, comme tous les jours RFI vous propose de commenter l'actualité. Et ce matin, nous attendons vos réactions sur l'affiche de la finale de la Coupe du Monde de football. D'autant que pour la deuxième fois de leur histoire, l'Argentine et l'Allemagne se retrouvent en finale. Alors que vous inspire justement cette affiche? Et ce sera intéressant d'en parler puisque ce match de dimanche va permettre aux deux équipes de se départager. En 1986, la victoire fut allemande. Quatre ans plus tard, elle fut argentine. Alors, quels sont vos pronostics? RFI vous donne la parole et vous êtes nombreux d'ailleurs à nous rejoindre aussi bien au standard que sur la page Facebook de l'émission. 763 messages postés sur la page de l'émission. Donc, n'hésitez pas à débattre entre vous également sur l'antenne en nous appelant 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France sur la page Facebook. Par exemple, Oski nous dit qu'il retient lui de cette Coupe du Monde, un vrai mondial de gardien de but et pas de grand joueur. Je ne sais pas si vous partagez son point de vue. Oumar, lui, estime qu'il se dit déçu, extrêmement déçu par le comportement des équipes africaines et particulièrement le Ghana qui a contracté à son tour le virus de la prime. Alors c'est vrai que les autorités ghanéennes ont dû envoyer un avion au Brésil avec à son bord tout de même 3 millions de dollars en liquide pour payer ces joueurs. Nous reviendrons sur toutes ces péripéties puisque ce sera l'occasion également de dresser un bilan de cette Coupe du Monde, de revenir sur la déroute du Brésil, le parcours des Bleus, les prestations évidemment des sélections africaines. 33 9 693 693 70. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Véronique Guémard du service international est déjà là, installée devant son bureau. Bonjour Véronique.
Et bonjour Juan, bonjour à tous.
Et surtout devant le micro d'RFI, Olivier, bonjour. Allô Olivier.
Bonjour Monsieur Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous appelez de Côte d'Ivoire. Alors, et vous avez des questions sur l'impopularité de Barack Obama.
Exactement. Alors le président Obama a sa cote de popularité au plus bas. Il a dit même dans un sondage qu'il est le pire président que les États-Unis aient connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce qui explique cela et comment peut-être qu'il soit au plus bas dans les sondages.
Oui, Barack Obama qui apparaît en tête d'une liste des pires dirigeants américains depuis 70 ans exactement, Véronique Guémard. C'est surprenant ou pas?
Alors, ce n'est pas très très surprenant et ce sondage n'est pas le seul à faire apparaître l'impopularité du président américain. Alors, on se réfère donc à ce sondage qui a été réalisé par l'Institut de sondage donc de l'Université Quinnipiac, donc dans le Connecticut, et qui est donc paru effectivement le 2 juillet aux États-Unis, qui a été largement repris dans la presse américaine d'ailleurs. Alors, à la veille des cérémonies du 4 juillet, donc c'était justement deux jours avant que le sondage a été publié, donc le 4 juillet qui marque l'indépendance des États-Unis, la chaîne de télévision CNN, elle a aussi publié un sondage qui indiquait que seul 41% des Américains approuvaient la gestion d'Obama en tant que président des États-Unis et que 54%, donc plus de la moitié, l'a désapprouvé. Alors certains analystes expliquent qu'il est normal qu'au bout de 6 ans, il y ait une certaine lassitude des électeurs. Obama a été élu donc pour la première fois, on le rappelle, en 2008, réélu en 2012. On arrive effectivement à ces 6 ans. La cote de popularité des présidents est souvent plus basse aux 2/3 de leur mandat. C'était aussi le cas pour George W. Bush. Mais on dit qu'une fois qu'ils quittent leurs fonctions, ces présidents regagnent souvent leur cote de popularité, ce qui est le cas actuellement pour George W. Bush.
Effectivement, il arrive deuxième, avec 28%, voilà. Obama 33%, 28% pour George Bush, qui a terminé son mandat effectivement au plus bas dans les sondages.
Oui, Ronald Reagan, lui, est considéré par 35% des Américains comme le meilleur président depuis la Seconde Guerre mondiale, suivi de Bill Clinton.
Alors, il y a la lassitude des électeurs. En même temps, il y a plusieurs raisons qui expliquent l'impopularité de Barack Obama.
Voilà, alors il y a eu plusieurs affaires, plusieurs questions aussi au sein du Congrès. L'affaire Edward Snowden, le sous-traitant de l'agence de renseignement américaine réfugié en Russie, qui a publié des informations sur l'ampleur de l'espionnage auquel se livre son pays, les États-Unis. Le dossier épineux de la réforme de la santé, hein, on s'en souvient, le fameux Obamacare porté par Obama et que le Congrès a bloqué, avec une lenteur du système aussi de mise en place des aides, des problèmes sur leur site internet, des critiques sur le coût engendré par cette réforme de la santé. Et sans oublier la réforme de l'immigration, on en parle beaucoup en ce moment. D'ailleurs, Barack Obama se trouvait au Texas hier. Le Congrès, ne bougeant toujours pas sur le sujet, Obama a déclaré récemment vouloir légiférer par décret. Alors effectivement, ça a suscité un tollé au sein même du Congrès. Et puis, lorsque le sondage a été réalisé, donc en juillet, on était aussi en plein scandale du département des anciens combattants. Vous savez, les révélations sur ces listes d'attente de vétérans dans les hôpitaux qui avaient provoqué d'ailleurs la mort de 35 d'entre eux faute de soins. Et encore, on peut rajouter aussi son échec face au lobby des défenseurs du deuxième amendement de la Constitution sur le port d'armes. Donc il y a beaucoup de questions d'affaires intérieures.
Ouais, et puis la politique étrangère d'Obama ne fait pas l'unanimité également. J'imagine que c'est aussi à cause de cela qu'il est impopulaire.
Voilà, il y a effectivement donc les fiascos sur le terrain diplomatique et donc la guerre en Syrie qui continue, l'Ukraine, la spirale de violence qui reprend en Irak avec la menace de l'EIL. Ou encore l'Afghanistan, cette affaire aussi d'échange de 5 prisonniers talibans détenus à Guantanamo contre un militaire américain prisonnier retenu donc et libéré donc au bout de 5 ans. Et puis, alors un journaliste de la presse américaine ne se prive pas de rappeler d'ailleurs que si le sondage révèle qu'Obama est perçu comme le pire président de la Seconde Guerre mondiale...
Depuis la Seconde Guerre mondiale,
il révèle aussi que le Congrès est encore plus mal loti que le président. C'est-à-dire que selon un sondage Gallup qui a été réalisé en mai dernier, 80% des personnes interrogées disent ne pas approuver la façon dont travaille le Congrès. Et d'ailleurs, il est donc pointé du doigt pour avoir bloqué un certain nombre de réformes, notamment l'immigration dont on parle beaucoup effectivement aujourd'hui. Alors ce qui inquiète les démocrates, on peut conclure là-dessus, c'est que souvent les sondages publiés juste avant les midterms, donc les élections de mi-mandat, sont un indicateur de la manière dont le parti s'en sortira le jour des élections. Alors dans ce cas précis, ce n'est pas un très bon signe pour ces élections, ces midterms de novembre prochain, qui doit renouveler donc les 435 sièges de la Chambre des représentants et le tiers des 100 sièges du Sénat.
Voilà Olivier, on vous souhaite une bonne journée à Abidjan. Véronique Guémard, merci à vous. À bientôt, je l'espère, dans ce studio pour répondre à d'autres questions. Stéphanie Aglietti, notre correspondante à Kigali, au Rwanda, sera avec nous dans un instant, puisque nous accueillons Kaba, qui a une question, justement, à nous poser sur le Rwanda. Bonjour Kaba.
Oui, bonjour Wani, bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Vous nous appelez de Conakry et nous vous écoutons.
Exactement. J'ai entendu que la ville de Kigali a démoli le centre culturel franco-rwandais. Et on sait que les relations entre Paris et Kigali restent tendues depuis les commémorations du 20e anniversaire du génocide rwandais. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a motivé cette décision de la ville de Kigali et quelle a été la réaction des autorités françaises. Et enfin, quelles peuvent être les conséquences de cet acte sur les relations franco-rwandaises?
Ouais. Stéphanie Aglietti, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct de Kigali. Alors effectivement, le centre culturel franco-rwandais de Kigali a été démoli à la pelleteuse. Il n'en reste plus qu'un tas de gravats. C'est vrai que c'est une page de l'histoire de la coopération franco-rwandaise qui se tourne. Kaba nous disait à l'instant que les relations étaient tendues depuis les commémorations du 20e anniversaire du génocide. Les relations entre Paris et Kigali, elles sont tendues depuis plus longtemps, depuis 20 ans maintenant.
Oui, effectivement, les relations entre la France et le Rwanda ont toujours été compliquées depuis 1994 et la fin du génocide. Alors, en effet, depuis lors, Kigali accuse la France, alliée à l'époque de l'ancien régime, de complicité de génocide. Les relations entre les deux pays avaient même été rompues entre 2006 et 2009 à la suite de la mise en cause par la justice française de proches du président rwandais Paul Kagame dans l'attentat qui a coûté la vie au président Habyarimana le 6 avril 1994, un événement considéré comme l'élément déclencheur du génocide. Alors déjà, pendant cette période, l'Institut français au Rwanda avait été contraint de fermer. Et donc plus récemment, comme le rappelait Kaba, alors qu'on avait l'impression que les relations tendaient vers la normalisation, elles ont subi un nouveau coup de froid. En effet, à la veille de la commémoration des 20 ans du génocide, en avril dernier, Paul Kagame a accusé la France de participation directe dans les massacres. Et en réaction, Paris a annulé la venue de sa délégation à la commémoration.
Oui, alors ce qu'il faut dire, Stéphanie, c'est que le centre culturel franco-rwandais était un haut lieu culturel de la capitale, Kigali. Pourquoi la ville a-t-elle donc décidé de le détruire ?
Eh bien, officiellement, pour la mairie, le terrain occupé par l'IFR, en plein cœur de la capitale, dans une zone effectivement en plein boom urbanistique, n'était pas utilisé rationnellement, conformément à la loi d'urbanisme qui impose des ratios de densité. Donc, selon la municipalité, la mise en demeure de l'Institut français datée de novembre 2013, elle a été suivie en mars 2014 d'une demande de confiscation du terrain pour non-exploitation. La mairie a également exigé la destruction du bâtiment, avançant des raisons de sécurité à la suite de la non-occupation du bâtiment. Du côté de la municipalité, donc on dément tout lien entre cette procédure et la crise diplomatique entre la France et le Rwanda. Alors il faut savoir que selon certaines sources proches du dossier côté rwandais, on a tendance à dire que Paris a traîné les pieds pour trouver une solution et mettre le bâtiment aux normes dans les délais exigés. Du côté de l'ambassade de France, on dément fermement. Cette procédure n'était pas notre choix. Nous avons cherché des partenaires depuis 2009, mais aucun candidat n'a donné suite aux appels d'offres, explique-t-on.
Et quelle a été la réaction des autorités françaises ? C'est ce que nous demandait Kaba.
Eh bien, les autorités françaises n'ont pas réagi officiellement à cette décision et il est fort possible qu'elles ne réagissent pas. Même si, deux semaines avant la démolition de l'IFR, Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, a envoyé une lettre à son homologue rwandaise, lui suggérant, sans toutefois la contester, de repousser la destruction du bâtiment, estimant que dans le contexte actuel, cette décision enverrait une image négative des relations entre les deux pays. Le sujet a aussi été abordé lors de son entrevue avec le président rwandais en mai à Libreville. Mais cette lettre n'a jamais reçu de réponse et le bâtiment a été détruit par la municipalité. Actuellement, si les activités du centre sont suspendues, car il n'y a pas de solution de relogement, l'ambassade précise que les activités de l'école française à Kigali se poursuivent.
D'accord. Merci beaucoup Stéphanie Aglietti d'avoir été en direct avec nous. Kaba, voilà pour nos explications. On vous souhaite évidemment une bonne journée en Guinée, à Conakry. Il est 10h22 et en ce moment même s'installe dans ce studio Alejandro Valente, le chef du service des sports des RFI. Bonjour Alejandro.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Alors on va pas parler de l'affiche de la finale, mais on a quand même des questions concernant notamment des soupçons de trucage, le Cameroun. Abdoul, bonjour. Non, c'est Abdelkader, pardon. Abdelkader, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous appelez du Tchad, vous êtes à N'Djamena, nous vous écoutons.
Oui, c'est moi, je vous appelle de N'Djamena. Alors Juan, on a appris par le biais du journal de Spiegel que la défaite du Cameroun face à la Croatie était un match truqué.
Oui.
Alors sur quelle preuve s'est basé le journal pour affirmer qu'il y a trucage?
Alors, trucage ou pas, c'est la question, évidemment, Alejandro Valente. En tout cas, la Fédération camerounaise a évidemment immédiatement lancé une enquête. On rappelle les faits. Que dit exactement le magazine allemand Der Spiegel ?
Voilà, disons que Der Spiegel se base sur le témoignage d'un Singapourien qui s'appelle Wilson Raj Perumal, un homme qui a été condamné à plusieurs reprises pour fraude dans des matchs truqués. Vous savez que les mafias ou les groupes organisés qui agissent dans ces domaines sont souvent basés en Asie du Sud-Est. Donc voilà, cet homme expliquait avant, donc c'est selon Der Spiegel, avant le match entre le Cameroun et la Croatie, que la Croatie a gagné 4-0, que la Croatie allait gagner 4-0 et que le Cameroun allait finir la première mi-temps à 10. Effectivement, cela s'est avéré puisqu'Alexandre Song a été expulsé en première mi-temps.
Donc tout ça avait été prédit avant le match, sur Facebook, il me semble.
Voilà, exactement, voilà. Oui. Et donc, voilà, l'homme expliquait que c'était pas compliqué de corrompre une équipe, etc. Donc, il y avait des éléments qui pouvaient effectivement donner prise aux soupçons. Et c'est pour ça que l'enquête a été ouverte. Et puis la FIFA qui dispose quand même d'éléments de contrôle qui lui permettent de voir si par exemple sur un match ou sur un fait de match il y a d'énormes sommes qui sont mises en jeu de façon suspecte, a estimé que ces accusations ne reposaient pas vraiment sur quelque chose de solide et a semblé mettre à l'écart un petit peu ces accusations. Sur la commission d'enquête ouverte au Cameroun à la demande de Paul Biya, le président, on n'en sait pas grand-chose depuis qu'elle a commencé. Il y a eu des rumeurs sur l'audition ou non de certains joueurs, etc. Mais il n'y a pas eu vraiment beaucoup de communication autour.
En tout cas, l'hebdomadaire allemand mentionne l'existence, au sein de cette équipe camerounaise, je cite, de 7 pommes pourries, autrement dit, de 7 brebis galeuses.
Oui, exactement, mais il ne précise pas lesquelles, ni donne aucune preuve concernant ces accusations. Et c'est un peu ce que la FIFA a demandé à Der Spiegel. Si vous avez des preuves, donnez-nous-les et nous ferons le nécessaire pour éventuellement sanctionner les coupables. Mais visiblement, ces preuves ne semblent pas exister. En tout cas, aucun élément précis et concret n'a été révélé jusqu'à ce jour. Et pour l'instant, on est amené donc à l'idée qu'il y a une commission d'enquête. Vous savez, souvent, les commissions d'enquête ne débouchent sur rien. Donc, il faut attendre que cela avance pour voir s'il y a des éléments concrets ou pas. D'ailleurs, dans d'autres pays comme le Ghana, un processus similaire a été mis en place sur sur les histoires des prix.
À la demande du chef de l'État.
À la demande du chef de l'État. Donc, ce sont des choses qui font créer une commission d'enquête. C'est souvent la manière de se débarrasser d'un problème. Donc, on va voir si dans les cas concrets du Cameroun, il y a ou non des éléments concrets. Moi, je retiens un peu la réflexion de Joseph Antoine Bell, notre consultant, qui a dit « Je vois pas l'intérêt d'acheter des joueurs du Cameroun pour qu'ils perdent, alors qu'on sait de toute façon qu'ils vont perdre. » Donc, quelque part.
C'est du Joseph Antoine. Qu'on salue évidemment parce que je sais qu'il est fidèle à l'émission et qu'il écoute RFI. Alejandro, je regarde la pendule, il nous reste 3 minutes. Oui, je voudrais qu'on accueille Mortala. Bonjour Mortala.
Oui, bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous appelez de Dakar et vous avez des questions concernant la déroute du Brésil.
Voilà, c'est ça. Donc, comme tous les fans de la CLSAO, j'ai été très surpris et déçu suite à la longue défaite brésilienne à domicile en demi-finale de la Coupe du Monde face à l'Allemagne. Alors, Juan, aidez-moi et aidez-nous à comprendre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui peut expliquer cette déroute de l'équipe du Brésil à domicile dans son mondial? Ouais. Et maintenant, quel avenir pour la CLSAO? Est-ce que l'entraîneur doit démissionner? Est-ce que certains joueurs seront écartés?
Alors, après le choc, l'heure de l'analyse avec Alejandro Valente. Que s'est-il passé? Comment expliquer l'ampleur de ce fiasco?
Rapidement, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Déjà, l'équipe n'était pas très bonne. On sait que sa force était essentiellement sa charnière centrale. Il y avait quand même un milieu de terrain un peu expérimenté et qui était en perte de vitesse par rapport à ce qu'ils avaient réalisé un an plus tôt. L'attaque n'était pas bonne et ça s'est encore vérifié. L'équipe reposait énormément sur la charnière centrale et sur Neymar.
Et le pauvre Neymar...
Voilà, la charnière centrale était en partie amputée pour le match de mardi, puisque Thiago Silva était suspendu et Neymar avait dû quitter l'équipe pour blessure. Donc, à partir de là, l'équipe était fortement affaiblie. En plus, il y avait une forte emprise de l'émotion. Je pense que les joueurs s'étaient un peu laissés envahir par un sentiment d'émotion, par la passion qu'ils soulevaient autour d'eux. Et ça a nui sans doute à leur préparation mentale.
Alors que Scolari, le sélectionneur, a fait appel à un psychologue justement aider les joueurs à surmonter cette émotion.
Scolari avait misé sur le fait que cette émotion allait porter les joueurs et je pense qu'elle les a plutôt handicapés. Et puis il y avait eu un discours un peu trop triomphaliste et qui était... peu en face avec la réalité de cette équipe. Il aurait peut-être fallu prendre conscience des limitations de cette équipe afin de la soutenir autrement. En tout cas, c'est difficile à expliquer une telle déroute, mais elle va laisser énormément de traces. Et pour répondre à ce que nous demandait Mortala...
Sur Scolari, parce qu'il faut toujours un responsable.
Voilà. Scolari a assumé ses responsabilités. De toute façon, lui et tous les staffs techniques qui étaient en place depuis longtemps, ils vont partir après le match de samedi contre les Pays-Bas, les matchs pour la 3e place. On parle déjà des titres un entraîneur local pour le remplacer. Scolari pense qu'une quinzaine de joueurs vont rester pour la prochaine Coupe du Monde en 2018. Ah ça paraît très optimiste. C'est vrai que c'est une équipe jeune. Parce qu'il y a un autre problème du Brésil, c'est que toute une génération de joueurs qui auraient dû être présents, les Robinho, Adriano, etc., des joueurs qui sont dans la trentaine.
Et même Kaka.
Voilà, Kaka avait connu une baisse de régime, etc., et donc avait dû quitter l'équipe trop tôt.
On vous retrouve cet après-midi, Alejandro Valente, pour Radio Foot International avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux et Igor Strauss. Restez avec nous. Tout de suite, le journal est dans 10 minutes. Justement, on continuera à parler football.